Spotkania europejskie.
Rozumiem tutaj Europę.
Rozkrucia Europej.
Stavrodromit się w Europis.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Bonjour, bonsoir, bienvenue au Carrefour de l'Europe. Il est encore temps de vous souhaiter, à vous, fidèles auditeurs de l'émission, une bonne et heureuse année. Pour l'Europe, c'est un peu plus délicat, car jamais depuis sa création, l'Union européenne n'a connu un tel désarroi. La crise économique et son corollaire, le chômage de masse, ne sont toujours pas endigués, notamment en Grèce. L'afflux massif de réfugiés venus de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan menace l'espace Schengen, renforce les partis populistes presque partout en Europe et suscite une fracture entre les pays ouest et est européens. L'heure est au repli national, comme l'illustre le prochain référendum voulu par David Cameron sur l'appartenance ou non du Royaume-Uni à l'Union européenne. 2016, année de tous les dangers pour l'Union européenne, avec tout de même un petit point d'interrogation. Bonjour Constance Le Grip.
Bonjour.
Vous êtes eurodéputée Les Républicains à PPE. PPE, c'est là où tous les partis de droite conservateurs se retrouvent. C'est le Parti populaire européen. Yves Bertoncini, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et nos auditeurs. Bah, finissez par bien vous connaître, hein, quand vous êtes régulièrement autour des micros de Carrefour de l'Europe. Bonjour, guten Tag, Stefan Seydendorf.
Oui, bonjour.
Vous êtes le directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Merci d'être en ligne de Strasbourg grâce au concours de France Bleu Alsace. Et enfin, Clémentine Forestier. Bonjour, Clémentine.
Bonjour.
Vous êtes la rédactrice en chef de Contexte.com, un site qui s'intéresse beaucoup à l'Europe, beaucoup, mais pas seulement.
Qui s'intéresse beaucoup à l'Europe, mais aux politiques publiques de façon plus large, française et européenne.
Alors, entre bilan et perspective, comment jugez-vous l'état de l'Union? Je parle bien sûr de l'état clinique de l'Union. L'Europe va mal, déclarait déjà Jean-Claude Juncker lors de son discours de rentrée en septembre. On va faire un petit tour de table qui commence Yves Bertoncini. Est-ce que la situation n'a jamais été aussi grave qu'elle ne l'est aujourd'hui pour l'Union européenne ?
La situation est grave, mais pas désespérée. C'est une phrase qu'il faut prononcer en début d'année. Il y a eu d'autres crises, hein, dans l'histoire de la construction européenne. Celle-là est sérieuse, elle est multiforme. Et je crois qu'elle se dénouera positivement si, face au danger, l'Union européenne apparaît comme une réponse aux menaces et non pas comme une menace elle-même. Quels sont ces dangers? L'agressivité russe, le terrorisme islamiste, le changement climatique, le vieillissement accéléré de l'Union européenne, l'instabilité du voisinage, la crise des réfugiés,
africaine.
La crise migratoire, la montée en puissance des pays émergents qui ne sont pas tous amis. Face à ces dangers, est-ce que l'Europe est une réponse? Ma conviction, c'est que oui. Si, en revanche, on se focalise sur des problèmes qui sont réels, bien sûr, qui existent, mais qui sont des problèmes internes seulement. Et je pense au sujet du référendum britannique, qui ne sont pas secondaires, qui existent. Mais si on ne se focalise que là-dessus, comme on s'est focalisé en 2015 seulement sur la Grèce et la façon dont il fallait réformer la Grèce. C'est-à-dire que si on porte un regard introverti sur l'Europe, donc le référendum britannique va nous inviter à regarder ce qu'il en est de l'application du principe de subsidiarité. Bien sûr, c'est important. Mais est-ce que c'est prioritaire? Il va nous inviter à nous demander si les parlements nationaux pourraient pas avoir un plus grand rôle. Oui, bien sûr, tant mieux. Mais enfin, est-ce que c'est dans l'agenda la priorité? Selon le regard que les Européens porteront sur eux-mêmes en 2016, alors évidemment l'Europe sera en danger. Mais je le dis pour terminer cette introduction, puisque nous sommes sur Radio France Internationale, il faut que les Européens regardent davantage le monde et il faut qu'ils s'unissent face au monde. Ils ont su le faire fin 2015 pendant la COP21. J'espère qu'ils continueront à savoir le faire face aux autres défis que je viens de nommer, sans les citer tous.
Alors il faut évidemment que les Européens regardent le monde, à commencer évidemment par les Français. Ça va de soi. Constance Le Grip, dans les couloirs du Parlement européen, comment on juge cet état de l'Union? On est un peu désespéré ou pas?
On est inquiet. Désespéré est un mot un peu fort qui voudrait dire que d'ores et déjà,
en
tant que femme politique, on abdique. Or, je pense que si on s'engage, notamment dans ce mandat de parlementaire européen, c'est qu'on est porté par une volonté, porté par un espoir et qu'on veut faire bouger les choses, être dans l'action. Donc, on est non pas désespéré, mais c'est vrai, je crois, lucidement critique et à certains égards inquiet par l'état de la situation actuelle, qui n'est pas désespéré. Encore une fois, si l'on regarde ce qui se passe ailleurs dans le monde, on peut quand même constater que nous avons au bout de ce continent eurasiatique un espace de paix, de liberté, de démocratie, d'égalité entre hommes et femmes, et il y a là des biens précieux dont il nous faut prendre pleinement conscience et dont il faut que nous soyons également conscients qu'ils sont à défendre, à protéger et à promouvoir partout dans le monde. Et fragiles, puisqu'il s'agit de les défendre, c'est qu'ils peuvent effectivement être attaqués, comme on l'a vu d'ailleurs récemment encore, par les attaques sanglantes. Ceci étant, je pense qu'il nous faut trouver à définir les grandes lignes d'un plan d'action. Ce dont l'Union européenne, l'Europe, nos pays européens ont besoin, c'est de l'action, de l'efficacité, des résultats. Et nous avons certainement tardé collectivement, les uns et les autres, à tirer toutes les leçons des crises que nous avons successivement traversées, pour certaines surmontées, pour d'autres pas du tout, depuis 2008 et depuis la crise financière et bancaire qui nous est arrivée d'outre-Atlantique. Il nous faut, je pense, lucidement poser les premiers éléments d'une réflexion. Vous disiez tout à l'heure dans la brève présentation que vous m'avez consacrée que j'appartenais à la famille du Parti Populaire Européen, à la famille de la droite conservatrice européenne. Nous sommes tous sauf des conservateurs. Le PPE ne souhaite pas conserver en l'état l'Union européenne, mais au contraire apporter un certain nombre de pistes de réflexion opérationnelles, concrètes, pragmatiques, lucides. Je crois qu'il n'y a plus de tabous. En tout cas, il faut dépasser les tabous, dépasser les vaches sacrées, faire preuve d'imagination, de créativité. L'heure est, non pas désespérée, mais elle est un plan d'action d'urgence pour réformer l'Europe, refonder l'Europe. Incontestablement, nous avons déjà traversé des crises depuis la création du projet européen, c'est incontestable, mais ces crises que nous surmontions les unes après les autres se déroulaient dans des contextes de croissance économique, de prospérité, de croyance en l'avenir, de confiance de la part de nos peuples, de nos opinions publiques, en la capacité des dirigeants à trouver le cap et à tenir. Tout cela n'existe plus. Nous n'avons plus de croissance économique. Il n'y a plus de confiance en nos dirigeants économiques. Le malaise est profond.
D'où l'énorme difficulté. Stéphane Seydendorf, comment voit-on les choses outre-Rhin, du côté de Berlin? Évidemment, la situation allemande n'est pas comparable avec la situation de bien des pays européens. L'économie marche bien, le chômage est très très faible, et Angela Merkel reste une personnalité respectée par tous les Allemands. Alors, cette crise profonde qu'on a évoquée avec Constance Le Grip et Bertrand Chini, comment la voit-on, comment la vit-on en Allemagne?
On a pris conscience de cette fragilité de l'Europe durant l'année dernière. Pendant la crise grecque, c'était un peu différent. On avait l'occasion d'en parler ensemble aussi, et c'était surtout le début d'un euroscepticisme en Allemagne qui n'était pas aussi structuré que dans d'autres pays. Ça critiquait beaucoup l'Europe et puis aussi les autres pays membres d'une position de force, bien sûr. Durant l'année dernière, notamment avec la crise des réfugiés, l'Allemagne a pris conscience de la fragilité de cet acquis communautaire qu'on a aujourd'hui, qu'il faudrait se bouger pour maintenir, éventuellement approfondir, réformer cette Union européenne qui marche pas très bien actuellement. Et puis peut-être aussi un deuxième élément qui est moins pressant que dans le débat français, puisque à Strasbourg, notamment à Berlin, on est un peu plus à l'est qu'à Paris.
Et justement, cette fracture entre l'ouest et les pays de l'ouest et de l'est européen, elle est perçue comme très préoccupante par Berlin, par Angela Merkel, par le gouvernement allemand.
Mais on pensait, notamment aussi au sein du gouvernement, de savoir faire avec les pays de l'Est et savoir mieux faire que l'Italie ou la France avec ses voisins de l'Est. Et on est un peu surprise de constater que, de ce qui se passe, notamment pendant la crise des réfugiés, que ces pays sont quand même très très différents encore de nous à l'Ouest. Et puis, ce qu'il faut pas oublier, on a tendance d'oublier en Allemagne même, que l'Allemagne, elle fait à moitié partie de ces pays de l'Est, de ces pays de transformation. C'est aussi une société en transformation, un peu comme en Pologne ou en Hongrie, où on a des opinions parfois très étranges pour nous qui ont grandi, qui ont été socialisés à l'Ouest. Donc, ce deuxième aspect, il est très pressant Depuis le mois de novembre, octobre-novembre, et puis ça a été aussi discuté autour du Conseil européen de décembre, que on est surpris comment ces pays de l'Est sont somme toute encore très très différents du noyau dur, si on veut, de l'ancienne Union européenne.
Clémentine Forissier, alors il y a les réfugiés, les migrants, le terrorisme, les frontières, il y a une polycrise, je ne sais pas si le mot existe en français, en tout cas il est tout à fait adapté. Un des problèmes, c'est qu'on ne sait pas par quel bout commencer. On commence par quoi, par où pour résoudre cette crise? Alors je sais que si vous aviez la solution miracle, vous ne seriez pas journaliste, mais vous seriez à la tête de la Commission européenne, mais tout de même...
Je ne sais pas si j'aurais choisi la tête de la Commission européenne. L'Europe, elle est complètement crispée en ce début d'année 2016. Elle étouffe. Il y a évidemment des crises dont on a parlé. Ce qu'on peut constater, c'est le repli sur soi, qui est le mot d'ordre un peu partout. La France, elle regarde la gestion de ces attentats terroristes. Les Allemands, eux, de leur côté, on a déjà parlé, ont pris des décisions relativement unilatérales sur la gestion de la crise des réfugiés qui ont surpris tout le monde. Donc, ils ont au départ pensé que c'était quelque chose qui serait positif pour eux. Aujourd'hui, ils commencent à un peu s'en mordre les doigts, même si Angela Merkel change pas de discours autour d'elle, ça s'effrite quand même sacrément. Les Polonais prennent font passer des lois qui sont attentatoires aux libertés. La Commission s'en inquiète. Enfin, on pourrait multiplier les exemples. Les Italiens, dans leur genre, mais on peut pas forcément en vouloir aux uns et aux autres, hein, ne veulent pas s'associer aux décisions qui sont prises, notamment sur la réforme de Schengen. Donc on est dans une espèce de repli sur soi généralisé. Ça, c'est le premier point qui me semble assez violent en ce début d'année 2016. Peut-être plus fort que ce qu'on a pu percevoir, parce que ça touche. On parlait de vache sacrée. C'est vrai que l'espace Schengen, c'est un principe, ça fait partie des principes fondamentaux. La liberté de circulation, c'est quelque chose d'essentiel. Aujourd'hui, on voit bien que la tentation est pour chacun de rétablir les contrôles aux frontières, ce qui n'est pas interdit en soi, mais personne n'est capable de dire jusqu'à quand tout ça va durer. Et puis le dernier point, c'est qu'il n'y a pas de projet, c'est-à-dire qu'on est dans la gestion à court terme. On est le cas français est un exemple, mais on voit la gestion de la crise à 3 mois, 6 mois, on va pas au-delà. Et au niveau européen, c'est pareil. Tous les projets depuis plusieurs années de définition d'une vision commune, etc., sont à chaque fois repoussés. Mais personne ne veut proposer une vision. Et la Commission peut jouer son rôle. Elle l'a joué à de multiples reprises sur différents dossiers, mais elle peut pas tout faire seule.
Alors un bien pour un mal, l'Europe a été très présente au cours des vœux des différents chefs d'État européens. Ce fut le cas évidemment de David Cameron, qui a promis à ses concitoyens de batailler ferme contre Bruxelles en vue du référendum, le déjà fameux Brexit. Mais ce fut également le cas de François Hollande et d'Angela Merkel, le président français évoquant d'abord les questions de terrorisme et de sécurité, la chancelière allemande, les réfugiés, donc les frontières, des thèmes évidemment à forte implication européenne. Bref, retour en arrière avec Marie Afonso.
Lors de ses vœux à propos de la crise des réfugiés qu'affronte l'Union européenne, Angela Merkel, à contre-courant de nombreux dirigeants, a rappelé quelques fondamentaux de l'esprit européen en matière de droit d'asile. Elle a réaffirmé l'importance de l'intégration des réfugiés, car pour Angela Merkel, pas de doute, cette crise migratoire est un défi, mais aussi une chance pour l'Allemagne de demain. Elle a notamment adressé un chaleureux merci aux Allemands et aux autorités du pays pour l'accueil fait aux réfugiés.
Nous sommes en train de travailler aussi bien en interne qu'au niveau international pour améliorer la protection des frontières extérieures de l'Europe, pour convertir l'immigration illégale en migration légale et pour lutter contre les raisons de la fuite des réfugiés et de cette manière réduire notablement le nombre de réfugiés de manière permanente. L'Allemagne a fait d'importantes contributions pour la lutte contre le terrorisme. Nos soldats risquent leur vie pour défendre nos valeurs, notre sécurité et notre liberté. À eux, je leur dis merci de tout mon cœur.
Alors que l'Allemagne a accueilli plus d'un million de réfugiés en 2015, d'autres pays en Europe sont plus réservés et même hostiles, ce qui se traduit par le renforcement des contrôles et parfois la fermeture des frontières. Dernier exemple en date, Stockholm, débordé par l'arrivée de réfugiés, a repris le contrôle de ses frontières avec le Danemark. Quant à la Hongrie, elle a élevé un mur avec la Serbie. Si François Hollande, en présentant ses vœux pour l'année 2016, a débuté son allocution en rappelant, je le cite, que nous venons de vivre une année terrible. Il a rendu hommage aux victimes du terrorisme et aux Français, mais dans sa conclusion, il a plaidé pour une France ouverte sur le monde.
La patrie, c'est le fil invisible qui nous relie tous, Français d'ici ou d'ailleurs, citoyens de toutes conditions, de toutes croyances, de toutes origines. Et la patrie, elle est au cœur de mon engagement. C'est celle qui s'accomplit dans l'ouverture au monde, dans le respect des autres, dans l'égalité, dans la confiance dans l'avenir, l'avenir de la France. Et jamais dans le repli, la fermeture, la discrimination ou la nostalgie. La patrie, c'est en son nom que nous avons bâti l'Europe. L'Europe, elle a réussi de grandes choses, mais elle a révélé des insuffisances qui la mettent aujourd'hui en péril. Face à l'afflux des réfugiés provoqués par les conflits, l'Europe doit être capable de sécuriser ses frontières et d'accueillir ceux qui demandent l'asile, tout en raccompagnant dans la dignité ceux qui n'en relèvent pas. C'est un défi majeur. Ou alors ressurgiront les murs que l'on croyait abattus par l'histoire.
Hubert Tonchimi, un président de la République au ton très grave, on l'imagine, on le comprend. Est-ce que la chancelière et le président parlent d'une même voix, de même chose, des problèmes qui secouent l'Europe? L'un quand même parle d'abord des réfugiés, l'autre du terrorisme, de Daesh, et donc de sécurité, voire de défense. Finalement, le point commun entre Angela Merkel et François Hollande, c'est la frontière. C'est la seule chose qui les unit, semble-t-il, sur un discours comme ça de fin d'année.
Ils vont dans la même direction, je dirais, mais leur point de départ est en effet très différent. Je parlais du regard qu'on porte sur le monde. Il faut regarder aussi la façon dont on se perçoit soi-même. Que nous dit Angela Merkel? Nous faisons face à des défis sérieux. La situation est grave. Mais nous sommes forts. Nous sommes l'Allemagne. On va y arriver. Wir schaffen das. C'est un rare mot allemand que je connaisse grâce à elle. Est-ce que François Hollande pourrait dire ça? Est-ce que les Français sont forts? C'est quand même la racine du problème. Angela Merkel, Clémentine l'a souligné, a perdu un peu de son capital politique, mais elle maintient le cap. Et elle dit, l'Allemagne est forte, ça a pu la conduire à un peu d'unilatéralisme, en effet, c'est regrettable. Mais est-ce que l'Europe est forte face à ces défis? Et surtout, est-ce que l'Union fait la force ou est-ce que les pays tout seuls vont mieux y arriver? Prenons l'exemple de Schengen. Rétablir le contrôle aux frontières nationales, c'est appliquer Schengen. Ce n'est pas suspendre Schengen, comme on l'entend dire. Non, c'est appliquer Schengen. Schengen, ce n'est pas seulement plus de liberté, c'est aussi plus de sécurité. Plus de sécurité parce que les contrôles, on peut les faire aux frontières nationales. Mais alors, si c'est pour arrêter les terroristes, ça ne sert à rien. D'ailleurs, le terroriste en fuite après le 13 novembre et ses attentats sanguinaires, il a été contrôlé à la frontière franco-belge à Cambrai. Puisque l'information n'était pas bonne, on l'a laissé filer. Donc, est-ce qu'on arrête les terroristes aux frontières? Non, donc il faut les arrêter avec du contrôle mobile, avec de la coopération européenne, avec de l'échange de renseignements. C'est là que le bât blesse, parce que les services de police et de renseignement ont déjà du mal à échanger ensemble au niveau national. Donc quand il faut passer au niveau européen, c'est encore plus compliqué, mais il faudrait qu'ils accélèrent et qu'ils musclent un peu leur européanisation, si je puis dire. Sur la crise des réfugiés, vous parlez des frontières. Naturellement qu'il faut mieux contrôler les frontières extérieures de l'Union européenne. Là, il y a aussi un défi de souveraineté. Ces frontières extérieures sont nos frontières. Or, il y a une crise de confiance parce que si nos frontières sont gardées par des Grecs ou par des Italiens, voire par des Hongrois, il y a un problème de confiance sur leur volonté ou leur capacité à bien assumer cette tâche. Même si c'est très très difficile hein, dans le cas grec. Hein. Il suffit de regarder une carte pour voir combien c'est difficile. Mais pourquoi ? Il ne faut pas en rester aux frontières. Évidemment, c'est toujours mieux de renforcer le contrôle aux frontières européennes, qui sont nos frontières, plutôt que de rétablir tous les contrôles aux frontières nationales, parce que dans le cas du terrorisme, ça ne sert à rien. Et surtout, ça entrave la vie quotidienne de centaines de milliers, même de millions, d'honnêtes européens, si je puis dire, les frontaliers, il y en a plus de 300 000 en France chaque jour, les travailleurs routiers, parce que c'est pour eux qu'a été fait Schengen, hein, c'est pas pour la génération Erasmus qui n'existait pas. Donc évidemment qu'il vaut mieux renforcer le contrôle aux frontières européennes plutôt que rétablir le contrôle aux frontières nationales. Mais il faut agir à la source, pas à la frontière. C'est déjà presque trop tard. Les terroristes, on est en train de les frapper en Syrie. Tant mieux. Et il y a eu un mouvement européen, Madame Merkel l'a souligné. Il y a des Allemands qui coopèrent. Il faut aller agir à la source. Les demandeurs d'asile qui, d'un seul coup, se sont mis en mouvement de Turquie, de Jordanie, du Liban. Ils sont toujours, d'ailleurs, en grande majorité là-bas. C'est là-bas qu'il faut essayer de les maintenir. Et c'est parce qu'on n'a pas payé assez le HCR, qu'il n'avait plus d'argent pour les maintenir, et qu'à ce moment-là, ils ont d'autant plus entendu l'appel de la chancelière allemande. Il faut agir à la source, il faut agir au-delà des frontières. Mais ça suppose, et j'en termine, que les Européens soient davantage unis. Et c'est un grand défi pour l'Europe. L'Europe a subi la crise financière. Constance Le Grip l'a dit, la crise financière ne venait pas de chez nous. Et puis, elle est en train de subir la crise dans son voisinage immédiat. Mais s'ils continuent à subir, à jouer en défense, à jouer sur la ligne, à la frontière, ils ne seront pas efficaces.
On va faire une petite pause, évidemment, revenir dans la deuxième partie de l'émission sur la question de la frontière, sur la question de l'espace Schengen. Mais on va prendre tout de suite connaissance des dernières informations sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. À tout de suite.
Spotkania europejskie.
Cruzamento d'Europa.
Rozkrucia Europy.
Σταυροδρόμι της Ευρώπης.
Treffpunkt Europa.
The Hub of Europe.
Carrefour de l'Europe.
Daniel Desesquel.
Guillaume Meunier.
Rebonjour, bonsoir, Carrefour de l'Europe, deuxième partie. Jamais depuis sa création, l'Union européenne n'a connu un tel désarroi. La crise économique et son corollaire, le chômage de masse, ne sont toujours pas endigués, notamment en Grèce. L'afflux massif de réfugiés venus de Syrie, d'Irak ou d'Afghanistan menace l'espace Schengen, renforce les partis populistes presque partout en Europe et suscite une fracture entre les pays ouest et est européens. L'heure est au repli national, témoin le prochain référendum voulu par David Cameron sur l'appartenance ou non du Royaume-Uni à l'Union européenne. 2016, c'est décidément l'année de tous les dangers pour l'Union européenne. Je vous représente les invités qui ont pris place autour des micros de Carrefour de l'Europe. Constance Le Grip, eurodéputée Les Républicains PPE, Yves Bertoncini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Stéphane Seldendorf, directeur adjoint de l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg, il est en ligne de Strasbourg, et Clémentine Forestier, la rédactrice en chef du site contexte.com. Alors avant de reprendre notre débat, nous allons faire un petit détour par la rédaction de Courrier International. Bonjour Eric Scholl.
Bonjour Daniel.
Les très grandes difficultés que connaît l'Union européenne sont commentées un peu partout dans les colonnes des journaux, sur les plateaux de télévision et même à la radio, la preuve. Mais le magazine britannique le New Statesman va plus loin et dans une analyse très détaillée, il décrit une inéluctable disparition de l'Union, Eric.
Oui, c'est effectivement un article, c'est même une étude faite par deux chercheurs britanniques, Brendan Sims et Timothy Less. Ils sont intéressés aux facteurs qui risqueraient de faire disparaître l'Union européenne. Et pour ça, ils ont fait un travail historique. Ils se sont regardés, en fait, ces grands empires ou ces unions qui ont existé en Europe au cours du siècle dernier. Et là, je fais allusion, évidemment, à l'Empire austro-hongrois, mais aussi à l'Union soviétique et aussi à la Yougoslavie. Et dans ces trois cas, ils ont regardé ce qui a, au fond, précipité la chute et la disparition de ces trois grands empires. D'abord, ils constatent quoi ? Ils constatent que l'histoire de l'Europe du siècle dernier est plus riche d'exemples de désintégration que d'intégration, ce qui n'est pas très optimiste pour l'Union européenne. Et dans ces trois cas, ils ont constaté que le cheminement classique, ce sont des tensions très fortes entre le centre et les parties composantes de ces empires, et petit à petit, des tensions qui ne sont plus tenables et qui arrivent à finalement une sorte de désintégration à la fois du centre, mais aussi par des volontés, sécessionnistes, une force inéluctable qui va à la destruction de ces empires.
Alors, évidemment, l'Union européenne n'est pas l'Empire austro-hongrois, n'est pas l'URSS, ni même la Yougoslavie, mais qu'est-ce qui pourrait se passer ? Que disent ces chercheurs dans un scénario qui pourrait être encore plus noir que ce qu'on a l'habitude d'imaginer pour l'Union européenne ?
Les deux chercheurs élaborent un scénario noir qu'ils jugent possible, un scénario noir très inquiétant, alors qu'il pourrait se dérouler dès 2016. Ils partent d'une élection qui aurait lieu aux Pays-Bas à la fin de l'année ou en début 2017 et qui verrait la victoire du candidat du Parti de la Liberté de Geert Wilders à la tête d'une coalition anti-européenne. Tout de suite, ça inquiéterait fortement les partenaires des Pays-Bas et en particulier le poids lourd de l'Union européenne, c'est-à-dire l'Allemagne, qui, dans cette idée d'essayer de consolider le restant de l'Union européenne, serait prêt à faire des gestes, notamment vis-à-vis du Royaume-Uni, avant le prochain référendum, des gestes importants. Et du coup, c'est la France qui se retrouverait marginalisée. On se voit bien que dans cette Union européenne où il y a aujourd'hui un poids lourd, l'Allemagne et de deux côtés France et Royaume-Uni, c'est la France qui se retrouverait marginalisée. Le scénario noir élaboré par les chercheurs va plus loin puisque il verrait une victoire de Marine Le Pen en avril 2017 en France, victoire qui se traduirait immédiatement par des demandes de dérogation très fortes vis-à-vis de Bruxelles, que ça soit sur la zone euro, que ça soit sur les questions d'immigration, refus de l'Allemagne et donc une sorte de bataille européenne entre l'Allemagne et la France, avec au final une sortie de la France de l'Union européenne qui serait immédiatement suivie par une sortie des Pays-Bas et puis certainement d'autres pays et notamment le Royaume-Uni aussi, et on aboutirait en 2018 à la fin de l'Union européenne. C'est un scénario catastrophe, évidemment, les deux journalistes le précisent, tout de même s'ils disent que ce scénario resterait quand même optimiste parce qu'il n'y aurait pas de conflit armé.
Merci Eric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International L'Hebdo et de courrierinternational.com. Alors, évidemment, un scénario catastrophe. Est-ce qu'il vous paraît crédible, Clémentine Forissier, de contexte.com?
Effectivement, là, c'est un scénario assez catastrophe. La conclusion, d'ailleurs, j'en suis pas tout à fait sûre. La certitude d'absence de conflit armé, à ce niveau-là, de désintégration et de cataclysme politique, franchement, bien malin, qui pourrait prévoir qu'il n'y en aurait pas. Ce qui est intéressant dans le début de ce commentaire, c'est qu'on parle de tensions très fortes. Et ça me fait penser notamment à ce qui se passe en Pologne en ce moment. En réalité, la Pologne a un gouvernement donc qui est dirigé par un parti qui est largement eurosceptique, pour pas dire peut-être pas anti-européen, mais enfin très très eurosceptique. Et aujourd'hui, les Européens sont un peu démunis face à ce parti qui est en train de faire passer des lois donc qui vont rendre plus difficile, je dirais, l'indépendance des médias publics. Il y a eu aussi une loi qui inquiète encore plus la Commission européenne, qui pourrait rendre le contre-pouvoir de la Cour constitutionnelle plus complexe. Et en fait, il se trouve que aujourd'hui, ce parti, notamment au Parlement européen, il est proche des eurosceptiques de David Cameron. On a déjà eu des cas par le passé, notamment en Hongrie, où il y a eu des grosses discussions avec Viktor Orban, qui a pris des décisions qui étaient vues comme attentatoires aux libertés, qui inquiétaient forcément l'Union européenne. Il y a eu mais à cette occasion, Angela Merkel faisait partie de la même famille politique. Il y avait une sorte de dialogue possible avec ces dirigeants-là. Aujourd'hui, on est face à un gouvernement polonais qui n'a pas d'alliés, enfin qui est seul et qui à la limite marche seul sans vraiment se préoccuper de ce que peuvent penser les autres, même s'il est pas très heureux de voir que la Commission européenne veut lui demander des comptes. Et donc on se retrouve dans une situation où effectivement, si ces partis d'extrêmes anti-européens très eurosceptiques prennent le pouvoir dans un grand nombre de pays européens, et il y a des mouvements qui se renforcent dans beaucoup de pays, là pour le coup on pourrait effectivement peut-être arriver à une situation très très compliquée pour l'Union européenne.
Stefan Seydendorf, le commissaire européen en charge du numérique, qui est l'allemand Günther Oettinger, a dit à peu près la même chose en début d'année. Je le cite, « Je perçois pour la première fois un danger sérieux de désintégration de l'Union européenne. »
Oui, Günther Oettinger, il a une certaine autorité de sauter sur toute occasion de se rappeler aux souvenirs des Allemands. Quand il était ministre-président du Baden-Württemberg, il n'était pas toujours très populaire. Et là, on l'a mis commissaire à Bruxelles.
Vous voulez dire qu'on l'a éloigné, c'est ça?
Il est un peu dans le débat public en Allemagne. Donc, il saute sur chaque micro tendu, j'aurais presque dit, pour se rappeler aux souvenirs des Allemands. C'est ce qu'il a fait pendant la trêve de Noël, en quelque sorte, avec... Donc cette interview sur le cas de la Pologne.
Mais l'interrogation existe tout de même.
Oui. Au-delà du cas de Günther Oettinger, moi, j'aurais tendance à dire cette analyse très très noire des collègues du New Statesman. Elle a deux défauts majeurs. Primo, l'Union européenne n'est pas un empire. L'Union européenne est le résultat des choix démocratiques des États membres et des citoyens européens. C'est la grande différence avec tout ce qu'on a connu comme empire dans le 19e siècle en Europe, et en quelque sorte aussi le résultat, la leçon de ce passé. Le deuxième élément qui est directement lié à ça, l'Union européenne ne peut pas être dominée par un seul acteur, un seul pays, comme ce fut le cas des empires dans le passé. C'est pas la Serbie en Yougoslavie, c'est pas l'Autriche dans l'Empire austro-hongrois. Et l'Allemagne ne peut pas jouer ce rôle, quand elle l'essaye, ça marche pas, au sein de l'Union européenne. Et ça me ramène à quelque chose évidemment très cher au directeur adjoint de l'Institut franco-allemand, le rôle du couple franco-allemand en Europe, qu'on a tendance à oublier un peu ces jours-ci. Mais c'est toujours à cause, d'un côté, les différences persistantes entre Français et Allemands, qui restent deux pays de très différents, de systèmes politiques très différents, un État central, une unité fédérale de l'autre côté, et aussi deux acteurs politiques très très différents, Angela Merkel et François Hollande, qui viennent de deux bords différents. Et pourtant, on a aussi ce système du franco-allemand, du compromis permanent, de surmonter ces difficultés pour les Français et les Allemands, mais aussi pour les Européens. C'est à condition d'arriver des deux positions très différentes et de savoir surmonter ces différences que l'Allemagne et la France, ils peuvent prétendre à ce leadership en Europe. C'est donc pas une question que l'Allemagne est plus grand ou la France elle est plus belle ou d'autres termes qu'on pourrait chercher dans le passé. C'est à condition de savoir travailler ensemble, trouver des solutions franco-allemandes et européennes qui peuvent prétendre à ce leadership en Europe. Et c'est ça encore une grande différence à cette idée d'empire Europe qui n'a pas de sens.
Alors quand on entend Constance Lagarde, les dirigeants polonais, slovaques ou hongrois, on est tenté de se dire que les Européens ont quand même raté quelque chose, car tout de même l'Union Européenne n'est pas qu'un grand marché qui distribue des subventions aux pays les moins riches, c'est aussi un projet politique, c'est un espace de solidarité. Qu'est-ce qu'ont raté les Européens et au sein du PPE, qu'est-ce qu'ont raté les autres membres du PPE pour expliquer à Viktor Orban et aux eurodéputés présents dans votre groupe politique que l'Europe ce n'est pas qu'un grand marché.
Je ne vais pas ouvrir le débat sur Viktor Orban et la Hongrie, vous l'avez dit vous-même, c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'on a raté, entre guillemets, s'il faut être lucide et faire un peu d'autocritique en début d'année, c'est la période des bonnes résolutions, mais ça peut également être la période des remises en cause et de l'autocritique. Je pense que globalement, et cela avait été dit par un ensemble de voix fortes il y a plus de 20 ans déjà, on a fait l'élargissement avant l'approfondissement. Alors ces deux concepts peuvent paraître un peu abstraits, un peu abscons, mais on n'a pas su, avant que d'aller vers ce mouvement historique irrésistible, hein, et que je ne conteste pas du tout, qui était d'accueillir dans la grande famille démocratique européenne les pays de l'Europe de l'Est, de l'Europe orientale que nous avions lâchement abandonné, nous, les démocraties de l'Ouest, que nous avions lâchement abandonné au joug du stalinisme et du totalitarisme, nous aurions dû faire un certain nombre d'évolutions, un certain nombre de réformes, et nous aurions dû faire de l'approfondissement dans nos institutions, dans notre gouvernance, pour être en mesure ensuite de procéder et d'accueillir et d'intégrer au mieux dans ce mouvement d'élargissement historique qui a visé à avoir parmi nous nos cousins d'Europe centrale et orientale ces pays qui s'étaient libérés seuls d'ailleurs du fascisme. Et donc ce qu'on a peut-être raté, c'est cela, de ne pas avoir su à la fin des années 90 voir que en augmentant considérablement le nombre des membres du club, nous allions de facto, en quelque sorte, pervertir le mode de fonctionnement, pervertir le mode de gouvernance que nous n'avons pas, malgré les quelques avancées intéressantes du traité de Lisbonne, que nous n'avons pas fondamentalement modifié, fondamentalement transformé en passant de 15 à 28 maintenant. Et on sent bien d'ailleurs que cette propension à l'élargissement, si elle est provisoirement, parce que c'est l'un des engagements de la commission Juncker, suspendue pour 5 ans, n'a pas complètement disparu et que bien des pays, bien des autorités à Bruxelles ou ailleurs continuent à avoir ce rêve de l'élargissement sans fin, j'en veux pour preuve, et je m'y suis totalement opposée, comme l'ensemble de ma famille politique, les Républicains en France, la relance, entre guillemets, du processus de négociation avec la Turquie, et cette espèce de donnant-donnant chantage qui ne dit pas son nom,
d'ailleurs, ne croit, d'ailleurs.
Bon, personne ne croit, mais justement, c'est en politique, le comble, du sordide, excusez-moi, c'est le mensonge et l'hypocrisie. Alors, se lancer dans des grands machins sous prétexte d'être dans un système qu'on espère gagnant-gagnant, qui est donnant-donnant, voilà, je te passe ceci, tu me passes cela, etc. Sous le sceau du mensonge, de l'hypocrisie et du « personne n'y croit », comme vous le dites, c'est quand même le comble du sordide, et c'est le degré zéro de la politique, avec ce qu'elle doit entraîner quand même de volontarisme, d'engagement, de sincérité et de crédibilité. Je reviens à l'analyse qui a été faite par l'intervenant précédent sur « comparaison ne vaut pas raison », le projet européen n'est pas un empire, c'est une alliance de nations démocratiques qui ont fait des choix appuyés, soutenus, désirés par les citoyens dans le cadre du fonctionnement de nos nations démocratiques. Et la clé en démocratie, c'est quand même le soutien, l'adhésion, la confiance de nos peuples. Or, là où le bât blesse, entre guillemets, là où on voit bien que le germe de division, de désintégration, de délitement du projet est identifié, c'est qu'il n'y a plus la confiance, il n'y a plus l'adhésion, il n'y a plus la crédibilité. C'est ça le premier message auquel il faut que nous soyons conscients, envoyés de toutes parts dans tous les pays européens, des pays très prospères, qui n'ont pas le chômage de masse, qui n'ont pas les problèmes budgétaires, les problèmes de dette souveraine que nous connaissons par ailleurs, etc., mais qui eux aussi connaissent la progression d'extrémisme. Il n'y a plus de confiance, il n'y a plus d'adhésion, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus d'espérance. Voilà. Donc le premier défi, il est là. Et on a des idées à proposer pour essayer de restaurer cette confiance, cette crédibilité, cette adhésion de nos concitoyens.
Yves Bertrand Chény, l'idée de l'Union européenne, c'est évidemment un grand marché, donc rapprocher les les économies, mais il fallait peut-être aussi, et là c'est peut-être l'échec patent, rapprocher les esprits. On sent bien que entre le discours d'un dirigeant polonais, d'un dirigeant allemand ou français, il y a quand même une énorme différence. La solidarité, c'est ce que les Européens ont un peu oublié. C'est évidemment une clé importante de la construction européenne.
La solidarité, elle existe dans les faits. À chaque fois, elle a accouché au forceps. Quand il a fallu aider la Grèce l'année dernière, on l'a quand même aidé. C'est douloureux pour les contribuables de certains pays, notamment en Allemagne, qui ont quand même accepté de faire cela. Elle existe dans les faits. Le mécanisme de relocalisation de 160 000 demandeurs d'asile, elle a été mise en place. Là aussi, au forceps, il faut que ça soit exécuté. Ça doit l'être en 2 ans. Ça commence pas très rapidement. Ça existe dans les faits. Mais effectivement, elle a un peu déserté les esprits, l'esprit de solidarité. On peut à nouveau gloser à l'infini sur les différences entre les Grecs et les Allemands. Tout est relatif. C'est une question de regard. Moi, je me suis découvert européen en Californie en 1990 parce que pour des Asiatiques, des Coréens que je côtoyais là-bas, pour des Américains, pour des Chinois, il y avait eux et les Européens. Pour eux, la différence entre un Français, un Allemand, un Hongrois, un Estonien, elle est très 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 faible. Alors on est encore à nouveau, et je le redis sur Radio France Internationale, dans vraiment un enjeu de focal, de regard qui est porté sur nous-mêmes. L'Europe, et Constance Le Grip l'a rappelé, ce n'est pas un empire, ce n'est pas non plus une démocratie populaire. Les comparaisons des trois chercheurs sont ineptes dans leur point de départ. Ça ne veut pas dire que le point d'arrivée est exclu. La désintégration, elle est possible si les peuples de l'Europe, démocratiquement, décident de mettre un terme à cette aventure communautaire. Les Britanniques vont être invités à répondre à un référendum d'appartenance. S'ils veulent partir, ils partiront. Je le regretterai pour ma part. Mais avec tout le respect qu'on leur doit, ça ne sera pas une désintégration de l'Union européenne. Ça sera une rétraction, ça sera une amputation, mais ça ne sera pas une désintégration. Les Britanniques sont venus tardivement, ils ont un pied dedans, un pied dehors. Ce n'est pas une poutre maîtresse. La poutre maîtresse, c'est le franco-allemand, Stephen Sellendorf l'a rappelé. Donc, je crois qu'il ne faut pas s'égarer dans ces comparaisons. L'Union européenne, c'est une fédération d'États-nations, c'est l'expression de Jacques Delors, démocratique. C'est d'ailleurs bien pour ça que c'est si difficile de prendre des décisions à 28, qu'on décide souvent trop peu, trop tard, on a raison de le dire. Mais alors si on critique l'Europe parce qu'elle décide trop peu, trop tard, il faut se rendre compte que c'est parce qu'elle est démocratique. On n'a jamais autant parlé d'Europe. Il y a des débats, alors évidemment ça déprime un peu les Bruxellois qui ont l'habitude de construire l'Europe comme un bien commun, indépassable, qui ne devrait pas subir de critiques. Mais pour autant, l'Europe a avancé. Je veux dire une dernière chose, parce que pour nuancer ce qu'a dit Constance Le Grip sur le sentiment d'appartenance, et en tout cas je reprends sa distinction entre l'euroscepticisme et l'europhobie. Oui, il faut distinguer les eurosceptiques et les europhobes. Je crois que le problème du Royaume-Uni, c'est que ces deux forces-là sont à un niveau élevé. Il y a une conjonction des europhobes, l'UKIP, et des eurosceptiques conservateurs, avec un Premier ministre britannique qui est ni pour ni contre l'adhésion, bien au contraire, si on le suit. Donc c'est pas évident, sachant que tout ça est dans un contexte où justement l'image de l'Europe est dégradée. Et donc ça ne va pas rendre le vote favorable facile, même s'il n'est pas exclu. Mais si je regarde ailleurs en Europe, et prenons l'exemple de la Pologne, il n'y a pas de perspective d'un tel référendum d'appartenance. Les dirigeants polonais sont eurosceptiques, très eurosceptiques. Mais demandez-leur s'ils veulent sortir de l'Union européenne, demandez-leur s'ils veulent sortir de l'espace Schengen, demandez à M. Orban s'il veut sortir de l'Union européenne ou de l'espace Schengen. Absolument pas. Donc il y a quand même un socle d'appartenance, et une crise qui s'apparente davantage à une crise de copropriétaires, dont aucun ne veut claquer la porte, sauf peut-être les Britanniques, et qui veulent revoir le règlement de copropriété. Oui, ça c'est vrai sur l'euro, sur Schengen et sur plein d'autres choses, et effectivement, il faut le revoir. Le défaut, c'est que ils sont un peu trop sensibles à leur appartement, pas assez aux intérêts de l'immeuble, et surtout qu'ils ne regardent pas à l'extérieur, parce que pendant ce temps-là, le monde continue à tourner et l'Europe est ballottée.
Clémentine Fourissier, les Pays-Bas viennent de prendre la présidence tournante de l'Union, et évidemment il y a une enquête auprès des Néerlandais qui met en évidence leurs contradictions. Ils demandent à la fois moins d'Europe, c'est très net dans le sondage, mais en même temps ils veulent que celle-ci gère les grands enjeux, et par exemple la question migratoire. On est en pleine contradiction, et cette contradiction, comme vient un peu de l'expliquer Yves Bertoncini, on la retrouve chez les dirigeants, mais on la retrouve profondément chez tous les Européens, ou presque.
En fait, on a pensé qu'on pouvait construire l'Europe. Cette image de la copropriété, c'est pas mal, c'est-à-dire en étant les uns à côté des autres, mais en mettant un petit peu de choses en commun, mais pas trop. On a construit l'euro. Les Allemands disaient OK, on fait l'euro, mais surtout il y aura pas de renflouement d'États qui pourraient se retrouver dans une situation compliquée. On fait Schengen, mais à partir du moment où il y a une crise de réfugiés massive et où il faut prendre chacun sa part de réfugiés chacun chez soi. Ah non, surtout pas. On applique le règlement de Dublin qui dit que voilà, quand un réfugié arrive sur le sol, le pays qui est sur lequel arrive le réfugié doit le prendre en main. Et donc on a pensé qu'on pouvait faire l'Europe sans solidarité. On a pensé qu'on pouvait faire l'euro sans coopération dans les politiques économiques. On se rend bien compte aujourd'hui que en fait c'est pas possible. C'est-à-dire que il est peut-être un petit peu trop tard pour revenir en arrière. Quoi. On n'a plus tout à fait d'essence, comme dirait la chanson. Donc il y a un moment où ce que je me dis pour cette année 2016, peut-être que la contrainte va obliger à nouveau peut-être les Européens à coopérer, parce que sur le terrorisme on en a parlé. Un des grands enjeux, c'est finalement la coopération, l'échange de renseignements, et on voit bien quand on en discute avec les personnes responsables qu'elle est assez faible en fait, parce que chacun veut un peu garder l'information pour soi, et donc on a des ratés qui sont liés notamment au manque de coopération entre les services de renseignement. Sur le Brexit et le référendum d'appartenance du Royaume-Uni, c'est intéressant parce que les Britanniques posent certaines conditions qui sont quand même très très complexes à accepter, notamment sur la restriction des droits de certains types de prestations sociales aux travailleurs européens qui arrivent au Royaume-Uni. Est-ce qu'on va accepter ça? Est-ce que ça va pas justement générer une sorte de solidarité de fait parmi les États qui sont contre cette proposition-là, dire attendez, là, nous, nos valeurs, nos principes, la façon dont on voit l'Union européenne, c'est ça, donc vous pouvez pas nous imposer ça. Donc peut-être que par contrainte de se positionner face, notamment par exemple, je reprends encore l'exemple des Polonais, mais qui me semble quand même assez grave, c'est un très grand pays, et même s'ils ont pas envie de sortir de l'Union européenne, ils sont quand même en train d'agir dans un sens qui peut poser certains types de questions. La réaffirmation des valeurs aussi, même si elles sont un peu larges et floues, hein, les valeurs européennes. Voilà, est-ce que la contrainte ne va pas obliger les Européens à se positionner? Et j'en termine sur Schengen. Franchement, il suffit de voir les files d'attente dans les aéroports quand vous revenez, par exemple, des Pays-Bas et que vous arrivez à Paris et que vous avez des centaines de personnes qui font la queue. Les Européens, les citoyens, pour le coup, vont se rendre compte de ce que ça peut signifier qu'un espace Schengen qui ne marche pas dans sa logique normale. Et peut-être que ça va aussi obliger les pays à se dire, bon, ok, là, qu'est-ce qu'on fait pour maintenir cette liberté de circulation tout en assurant notre sécurité et en partageant un peu de souveraineté.
Stéphane Sennanov, un petit mot de conclusion. On dit que l'Europe s'est toujours construite dans la crise. Alors là, la crise est immense. Est-ce que le rebond sera à la hauteur de cette crise? D'un mot, Stéphane Sennanov. En tout cas, est-ce que le rebond peut être à la hauteur de cette crise?
Ouais, il faut l'espérer, oui, mais les défis sont très grands et ces différences entre Européens, ils sont tellement fondamentaux que on a du mal à avoir la petite lueur d'espoir. Peut-être je terminerai avec une image, puisqu'on est en train en France de commémorer les attentats contre Charlie Hebdo l'année dernière, janvier dernier. Vous avez tous en tête cette photo de la chancelière qui se repose un instant sur l'épaule de François Hollande lors des manifestations après les attentats. Et à ce moment-là, cette photo, c'est pas seulement très belle, et elle exprime quelque chose de retrouver entre ces deux dirigeants qui viennent des bords opposés, qui avaient du mal à se trouver et qui, à ce moment-là, ont quand même passé un cap et qui travaillent beaucoup de manière beaucoup plus proche maintenant et de plus constructive ensemble. Et peut-être c'est de là que peut naître une lueur d'espoir.
Constance, en moins d'une minute, une idée pour faire rebondir l'Europe dans cette crise. Pas le panel, une idée.
Une idée, faire un constat lucide, il existe plusieurs Europes. Il y a l'Europe de la zone euro où il nous faut aller plus loin, avec bien sûr de la bonne volonté et la capacité à repousser les mouvements spontanés d'égoïsme national dans la convergence et la coordination des politiques budgétaires, des politiques économiques et la nécessité absolue, une ardente obligation de lutter à l'intérieur de cette zone euro contre le dumping fiscal et le dumping social. Et il y a une autre Europe, les autres pays de l'Union européenne, qui sont un grand marché unifié où il faut mettre en œuvre, c'est déjà le cas, mais les amplifier peut-être, un forme de politique commune. Il y a la politique agricole, une politique industrielle digne de ce nom, une politique de recherche et d'innovation digne de ce nom. Donc un constat lucide, il y a plusieurs Europes. Il ne faut pas se dire que la réforme des traités est absolument incontournable. Il y a des choses à faire pour faire mieux fonctionner, peut-être un noyau dur, un premier cercle de pays volontaristes pour faire ensemble plus de choses sur la base des coopérations renforcées, sur la base de volonté politique forte, et voir ensuite, à travers le mouvement d'entraînement, si d'autres suivent ou pas. Mais encore une fois, les méthodes de gouvernement, les institutions, la gouvernance européenne telle que les traités les fixent pour un espace qui est actuellement composé de 28 États membres, ne fonctionne plus correctement. Donc il faut faire les choses autrement.
Hilbert Mancini, sauver le soldat Union européenne, comment, en un mot ?
Il faut sauver la France d'abord. J'ai parlé de fédération d'États-nations, on a beaucoup parlé du niveau européen, fédéral. Il faut regarder ce qui se passe dans les États-nations. On voit bien que l'Allemagne est plus forte que la France. Il faut que la France se redresse. Les partis europhobes doivent leur essor, pas d'abord à l'Europe, ils doivent d'abord leur essor à un vote anti-système. Si les conservateurs polonais sont au pouvoir, c'est parce qu'il y a une sanction de ceux qui les précédaient. C'est pas d'abord sur des sujets européens. Si le Front National est si haut en France, c'est d'abord pour des raisons domestiques, parce que la France a été mal gouvernée, mal présidée pendant trop d'années. Et donc c'est d'abord au niveau national qu'il faut agir. Il faut changer de lunettes. Regardez davantage l'international et regardez aussi davantage le national. J'ai plaisir à le dire sur Radio France Internationale.
Merci à tous les quatre. Hubert Tantini, directeur de l'Institut Jacques Delors, Constance Cripp, eurodéputée LR-PPE, Clémentine Forissier, contexte.com et Stéphane Seydendorf, Institut franco-allemand de Ludwigsburg. Réalisation Guillaume Munier avec à Strasbourg les équipes de France Bleu Alsace. Pour écouter cette émission RFI.fr ou encore mieux les applis mobiles mais gratuites de RFI. Plus d'infos sur nos invités via la page Carrefour de l'Europe RFI, sans oublier bien sûr les réseaux sociaux Facebook et Twitter pour rester en contact. La semaine prochaine, à ce même micro, vous retrouverez Béatrice Leveillé. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et tout de suite un nouveau journal sur RFI, la radio de l'Europe et du monde. Au revoir.